L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Coralie Carbelec. Coralie, je l'ai rencontrée à Paris quand tu bossais chez Universal.
Oui, chez Polydor.
Chez Polydor, à l'Influence.
Oui.
Et aujourd'hui, on est donc à Dubaï. Et tu bosses pour la boîte la plus ou l'application la plus cool du marché du Moyen-Orient, voire plus large, qui s'appelle The Entertainer, qui est absolument inconnue en France et dans les pays où les gens nous écoutent sans doute, et dont le modèle même est inconnu. En fait, on va parler de plusieurs choses. On va parler évidemment de Dubaï en tant que marché, parce que je pense que c'est hyper intéressant de comprendre ce marché-là. On va parler de influenceurs parce que je trouve que le modèle est intéressant et pour les gens qui écoutent, je pense que ça peut même leur donner des idées, pourquoi pas. Et on va aussi beaucoup parler, et c'est vraiment le but de ce podcast, des influenceurs et de la relation influenceur à Dubaï.
Oui.
La première question qui me vient, évidemment, c'est tous les préjugés qu'on te dit ou qu'on te sort sur Dubaï et qui sont complètement faux.
Alors, il y en a un qui me vient forcément à l'idée, c'est le préjugé beaucoup de gens pensent ou vont me demander, je l'ai eu plusieurs fois mine de rien et venant de personnes complètement différentes, qui m'ont demandé si je pouvais porter un maillot de bain à Dubaï. Je pense que les gens assimilent Dubaï parfois à l'Arabie Saoudite et se demandent si je dois porter une burqa ou si voilà. Ouais. Et il y a vraiment des gens qui pensent ça. Et donc ça, c'était un peu le préjugé où voilà, est-ce que je peux me mettre en maillot de bain? Oui, je peux me mettre en maillot de bain et je vais à la plage. Il faut savoir qu'il y a 90% d'expatriés à Dubaï, donc c'est assez open.
En tant qu'information, c'est déjà une information, le fait qu'il y ait 90% d'expatriés. Ouais. Quand tu veux marketer le marché, c'est un truc qu'il faut avoir bien en tête.
Oui. Et ça, c'est sûr que c'est quelque chose pour moi qui est hyper important parce que ça veut dire que ça joue beaucoup dans mon travail et au quotidien, en tout cas, ça c'est certain. Les autres choses, je pense qu'on a une idée de Dubaï, des grands buildings, des records, des choses en grand, où tout est très avancé, où c'est les nouvelles technologies. Il y a beaucoup d'argent, voilà. Alors c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent que tout est super développé. Dans le milieu du travail, c'est quelque chose qui est complètement différent. On est vachement là, on est vachement en arrière, je trouve. Ouais. Moi, ça a été quelque chose que j'ai eu beaucoup de frustration quand je suis arrivée à Dubaï, où j'ai eu l'impression de retourner en arrière, où je me suis dit waouh, vraiment. Quand je suis arrivée chez Polydor, c'était tout le début du digital et je faisais partie de la première team digitale de chez Universal Music et on a mis beaucoup de temps à développer déjà et à changer les préjugés sur le digital et quand je suis arrivée ici j'avais l'impression waouh, il faut exactement que je refasse la même chose parce que les gens étaient vraiment mais 5 ans en arrière et ça l'est toujours le cas. On essaie de rattraper mais je pense que dans ce domaine là et qui est mon domaine et qui est au quotidien et c'est très dur.
Le digital, tu veux dire.
Mon domaine c'est le digital, mon domaine c'est social médias, Et du coup, c'est quelque chose qui peut être parfois très difficile au quotidien, parce qu'il faut changer les préjugés et il faut éduquer surtout. C'est beaucoup d'éducation au final.
Mais ça, on en a aussi en France, hein, faut pas croire.
Oui,
je et alors, tu peux expliquer ce que c'est que The Entertainer, parce que je pense que ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que le modèle en tant que tel est même pas connu en France en fait.
Non. Et en plus, c'est un modèle qui a changé. En fait, Entertainer, c'est Donna Benton, c'est une Australienne qui il y a 15 ans est arrivée d'Australie. Et qui a essayé de répliquer quelque chose qui... en fait, c'est un bouquin à la base, c'est un publisher. C'est un bouquin qui est fait de plein de coupons pour avoir donc ce qu'on appelle buy one get one free offers. Uh-huh. C'est si tu achètes quelque chose, tu vas avoir l'équivalent gratuitement. Voilà. C'est pas 50% off, c'est pas 50%, c'est vraiment buy one get one free. Et du coup, elle est arrivée ici et elle a commencé à développer ce bouquin en fait, et qu'elle a été chercher les restaurants, les spas, les activités, et elle en a fait un bouquin qui il y a 4 ans. Donc ça a évidemment super bien marché parce que tous les expats d'ici cherchent à avoir un peu des discounts parce que la vie est très chère et tu dois tout payer à Dubaï. Il n'y a pas de parc, il y a rien. Tout ce que tu fais, tu dois le payer. Mmh. Donc du coup, évidemment, pour faire en sorte que tes week-ends soient remplis ou trouver des choses à faire, ça coûte cher. Mmh. Donc du coup, elle a vraiment servi à la communauté d'expats et elle a été voir tous les restos, tout, et elle a signé des contrats avec eux à l'année. Mmh. Et en fait, ce bouquin est devenu super connu à Dubaï. C'est le truc où quand t'arrives à Dubaï, tout le monde te le dit, est-ce que tu es entertainer? Et en fait, il y a 4 ans, elle a décidé de passer en mode digital, c'est qu'elle a créé une app. Ouais. Et, donc en fait, ils ont commencé évidemment donc il y a 15 ans où c'était 2 personnes qui avaient ça, et donc aujourd'hui on est 230 et on est dans 17 pays.
Et c'est l'une des apps les plus cool de Dubaï en fait.
Ah c'est alors oui, ce que je te disais, on avait une discussion tout à l'heure où je disais oui bah voilà, enfin personne ne connaît ma boîte en France, mais par contre quand je dis à Dubaï que je bosse chez Ely Entertainer, tout le monde me dit c'est pas vrai. Enfin c'est un peu si moi je disais aujourd'hui je bosse chez Apple ou chez Spotify ou voilà. Ouais. C'est quelque chose qui est très reconnu, c'est plus de 150 000 personnes qui achètent l'app tous les ans.
Donc c'est un fonctionnement où tu achètes tous les ans un abonnement et tu récupères des coupons.
Exactement, en fait tu l'achètes une seule fois et ça te dure toute l'année et c'est rempli de, je sais pas, je pense que tu as plus de 7 000 coupons, puisque tu as 3 offres par merchant, on les appelle par resto ou client en fait. Et en gros, à Dubaï, on a plus de, on a fait des partenariats avec plus de 2000 merchants, comme on les appelle, qui peuvent être des activités, des restos ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est le truc où aujourd'hui, même tout, à Dubaï, donc il y a un gros truc, c'est les brunchs.
Ouais, bien sûr.
Les brunchs. Et donc, en fait, c'est la plupart des expats vont à un endroit parce qu'il y a un coupon ou il y a Entertainer qui est disponible. Sinon, voilà.
Et ce que tu me disais en plus, c'est que comme il y a plein de nationalités différentes, vous avez plein de lieux différents, vous avez vraiment des typologies de lieux qui sont différents. Parce que c'est vrai que les Anglais vont pas dans les mêmes lieux que les Arabes, que les Français, etc.
En fait, le gros avantage de cette app, c'est qu'en fait, on a réussi à avoir énormément de data.
D'accord.
Parce qu'en fait, on arrive à savoir où est-ce que les gens vont.
Ouais.
On arrive à savoir ce que les gens aiment faire, à quelle heure ils aiment le faire. Si les gens bossent à tel endroit, qu'est-ce qu'ils aiment faire?
D'accord.
Et à quelle heure ils aiment consommer.
Ouais.
Et en fait, ça nous aide non seulement à grossir le produit, à aller chercher d'autres types d'offres, en fait, à les agrandir. Et ensuite, nous, ça nous permet de connaître exactement qui sont ces personnes. Il y a une grande difficulté à Dubaï, c'est que comme il y a justement ce que je te disais, 90% d'expatriés, c'est très difficile de marketer.
Bien sûr, ouais.
C'est très difficile. Alors évidemment, toutes les boîtes pensent à marketer les Arabes parce que c'est ceux qui ont le plus gros pouvoir d'achat. Les Émiratis en particulier, ou les gens du Qatar. Mais en fait, c'est très difficile d'aller... Alors évidemment, les boîtes ont parce qu'ils ont, ils voient des dollars, tu vois, à côté de ça, il faut aller aussi toucher tous les expats.
Ouais.
Dans les expats, t'as les Européens, et même dans les Européens, c'est entre les Français et les British, on n'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes goûts, on recherche pas les mêmes choses. T'as une grosse communauté indienne ici aussi. En plus, on vit dans des quartiers différents. Donc, c'est beaucoup, c'est vraiment essayer de toucher un grand nombre de personnes, même si c'est pas, au final, tant de personnes que ça, puisque Dubaï, c'est pas si grand que ça. Mais mine de rien, il faut réussir à les marketer, ces gens-là.
C'est étendu quand même.
C'est, oui, c'est, ça reste étendu, mais mine de rien, c'est un petit monde.
D'accord. Et alors, ce que tu me disais sur les influenceurs, c'est que c'est un marché qui est plutôt en retard. C'est-à-dire que les agences, enfin, les acteurs en place ne sont pas hyper en avance.
Non. En fait, je pense que les marques commencent à comprendre ce que c'est que la création de contenu et la valeur du contenu, ouais. Mais la plupart en fait ne voient pas, ne pensent pas en qualité de contenu ou qualité relationnelle ou ne pensent pas à la qualité, vont penser à la quantité, au nombre de les agences en particulier vont avoir vont dealer avec un nombre d'influenceurs parce que ils vont se dire bon voilà mon client a besoin de ça, donc en fait ils vont communiquer avec les influenceurs en disant j'ai un exemple où je te disais voilà, je rencontre beaucoup d'influenceurs et quelques-uns me montrent certains des emails qu'ils peuvent recevoir tous les jours et parfois tu te dis mais comment c'est possible quoi, c'est-à-dire que tu vas avoir des emails bonjour mon client, il ne présente pas le client, mon client lance ce nouveau produit, ne présente pas le produit, j'ai besoin de 5 postes et je te donne tant par poste. Est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu n'es pas d'accord?
Ouais, donc c'est vraiment très. En fait, ils considèrent que quand t'es au Moyen-Orient, c'est uniquement basé sur l'argent, quoi.
Ouais.
Alors qu'en fait, ils parlaient des humains malgré tout.
Exactement. et exactement. Et en plus de ça, c'est jamais de penser à quel type de contenu va être créé ou sur quelle plateforme ça va être créé. C'est vraiment c'est faire dans le gros, quoi. Ouais. C'est
voilà.
Les marques
qui veulent bosser sur le Moyen-Orient, les agences, c'est pas le bon truc.
Alors, je pense qu'il y a certaines agences qui peuvent essayer de. Pour l'instant, moi, ce que je pense, c'est que.
De ce que je vois,
c'est qu'en plus, l'influence n'est pas forcément traitée en tant que telle. C'est traité en gros. C'est traité parmi tant d'autres choses. Ouais. C'est traité parmi. C'est aujourd'hui, comme je disais, un directeur marketing ou un marketing manager va s'occuper du social media, des relations avec les influenceurs, va s'occuper de tout en D'accord. fait. Alors que pour moi, c'est
un truc à part entière.
Bah, c'est un truc à part entière.
Et alors, tu me disais aussi, parmi les influenceurs, en fait, quand on réfléchit à qui sont les influenceurs au Moyen-Orient, il y a très peu d'occidentaux au final.
Alors, il y a beaucoup d'occidentaux, mais ces occidentaux vont être des micro-influenceurs.
D'accord.
Les très gros influenceurs vont être locaux.
D'accord.
Soit d'Arabie Saoudite, soit de Dubaï, beaucoup d'Arabie Saoudite, ou alors des Libanais.
Ouais.
Ça va être plus des célébrités.
D'accord.
Ça va être beaucoup plus des célébrités. Et en plus, chaque pays du Golfe a sa spécialité. Par exemple, à Bahreïn, les plus gros influenceurs sont des make-up artistes.
D'accord.
Voilà. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui est connu, quoi. Et les make-up artistes ici, dans ce monde-là, dans le Golfe, en tout cas, c'est quelque chose qui est énorme.
D'accord.
Il y a une influenceuse qui s'appelle Huda Beauty et cette nana-là, elle a des millions de followers et c'est une des influenceuses les plus connues dans le monde du Middle East et je pense ailleurs aussi.
Et les autres régions, c'est quoi leur spécialité? Alors, si Bahreïn, c'est le make-up.
Vous dites, donc évidemment, t'as beaucoup de lifestyle et dans la mode et dans le make-up aussi, mais tu vas avoir beaucoup de youtubeurs qui vont être spécialisés dans le fast-food.
D'accord.
Donc des mecs qui vont au McDo, qui vont essayer tous les burgers et qui vont te dire ce qu'ils en pensent et tout ça. Et ça, et c'est un gros domaine, quoi.
Ok.
Voilà.
Au Liban,
je m'en occupe pas.
Et Dubaï, alors?
Alors, Dubaï, comme ils sont en train d'essayer de développer beaucoup plus, de plus en plus d'événements culturels, parce qu'il y a quelques années, il n'y avait rien de tout ça, ils font beaucoup de plus en plus d'expos, des événements pendant le week-end, où ils ramènent plein d'artistes du GCC, comme on dit ça, c'est tous les pays du Golfe. Du coup, tu as beaucoup plus de fashionistas, tu as beaucoup plus de mecs et de nanas beaucoup plus trendy qui sont vachement à suivre tout ce qui est mode, qui sont invités dans toutes les Fashion Week de Paris ou de New York, et qui sont super bien traités. Tu vois comment quand ils sont invités dans ce genre d'événement, tu te dis et tu te rends compte à quel point en fait ils sont importants pour les marques de luxe, mine de rien. Donc je dirais qu'ils sont beaucoup plus fashionistas à Dubaï.
D'accord. C'est marrant parce que c'est vrai qu'on a l'image de la burqa ou en tout cas de l'habit traditionnel, et c'est vrai que quand tu te balades tu les vois quand même beaucoup dans leurs habits traditionnels, donc c'est marrant de les imaginer hyper fashionista et habits traditionnels en fait.
Oui, et en même temps, quand tu vois tous les accessoires qu'ils ont, ils vont avoir le dernier sac de marque de luxe, le tout dernier. Ils sont à la pointe pour ça. Si tu passes chez Chanel, je peux te dire qu'ils sont en rupture de stock de toutes les nouveautés parce que les nanas, elles arrivent et elles achètent dans toutes les couleurs, quoi.
Et alors du coup, toi, comment tu bosses avec les influenceurs? C'est quoi ta méthode? C'est quoi ta recette? Est-ce que tu les choisis en fonction du nombre de followers? Est-ce que tu les choisis en fonction de l'interaction qu'ils arrivent à générer? Comment tu les choisis? Comment tu les approches? Parce que tu critiquais tout à l'heure les agences qui approchent les influenceurs en mode on a tel produit à lancer sans préciser le produit et on va vous payer tant. Tu me parlais de cet exemple, je sais plus quelle était, c'était une marque de confiserie qui voulait absolument qu'il y ait une blogueuse végane qui parle du truc, ce qui n'a aucun sens parce que c'est complètement à l'opposé de ce qu'elle fait. Toi, comment tu fais?
Alors moi, quand je suis arrivée il y a plus d'un an et demi maintenant dans la boîte, il y avait aucun background, il y avait rien, ils avaient jamais bossé avec des influenceurs et moi non plus en fait, j'en avais rencontré par mes boulots précédents mais je les connaissais pas plus que ça. Donc j'ai recommencé à zéro. Et j'ai commencé vraiment par aller juger par du contenu et j'allais juste me présenter vers certains. Donc ça c'est vraiment mon truc, moi c'est que je favorise énormément le relationnel, ça c'est certain.
C'est la bonne manière en même temps.
Voilà. Mais ça prend du temps. C'est difficile, c'est difficile d'expliquer à ton management que ça prend du temps, ces choses-là. C'est difficile parce qu'en plus, dans ma boîte, je suis obligée d'éduquer, faire beaucoup d'éducation, de faire comprendre mon travail à des gens qui ne viennent pas de mon milieu. J'ai la chance qu'ils me font confiance, mais personne ne vient de mon milieu et ils ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi je n'arrive pas à voir, à faire des... À faire de la quantité. Alors, maintenant, évidemment, quand j'ai commencé, c'était beaucoup d'introductions, c'était beaucoup de café, c'était beaucoup de... Voilà. Et puis moi je travaille qu'avec des gens qui ont envie de travailler avec moi. Et où je sens qu'il y a quelque chose où on va travailler ensemble parce qu'on a un intérêt commun. Moi c'est ce que j'essaye de comprendre, c'est qu'est-ce que l'influenceur recherche pour sa communauté.
Ça, c'est
et
hyper important.
Comment je peux t'aider à développer ta communauté.
Et tu les payes?
Non.
Ils acceptent de ne pas être payés.
Alors, il y a deux choses. Si j'ai la chance de travailler avec énormément de marques à Dubaï, que ça soit des hôtels 5 étoiles, que ça soit des restos avec des étoiles Michelin ou des accès à des super piscines, je travaille avec tous ces gens au quotidien.
D'accord.
Donc moi je peux leur amener des expériences, comme je te dis, si je comprends ce qu'ils sont en train de rechercher pour leur communauté, de là je peux les mettre en relation avec donc ça c'est une première chose. En plus, moi grâce à l'app je peux leur donner énormément de visibilité.
Bien sûr.
Donc je les aide à se développer. Donc ça, j'essaye de faire ça. En plus, je peux créer du contenu avec eux. Et évidemment, je reste flexible quant à leur disponibilité et j'essaye de faire en sorte que ça marche, ça marche pour tout le monde.
Et quand ils créent du contenu, tu les payes pas non plus?
Quand ils créent du contenu qui est basé sur une expérience que je peux leur offrir et qui peut leur les aider à développer leur communauté, non. D'accord. Si c'est sur une campagne qui est dédiée et je leur demande de dire quelque chose ou de faire quelque chose qui est sur un produit dédié, non. Évidemment, là je les paye.
D'accord, ça me semble étrange, je ne sais pas, ils ne sont jamais payés.
Non, voilà, exactement.
D'accord, ok, je comprends.
Et je suis très honnête dès le départ, toujours.
D'accord.
On ne paye pas, je t'offre des expériences, j'essaye de te comprendre, on essaie de travailler ensemble. Si on se fait confiance, j'irai toujours me battre pour essayer justement d'avoir du budget pour toi. Autre chose, si par exemple j'essaie toujours de comme c'est des freelancers, j'ai toujours besoin de contenu, de photos, de petites vidéos. Je vais privilégier de travailler avec ces influenceurs là en mode freelance.
D'accord.
Plutôt que de travailler avec des gens ne connais pas. Je vais essayer toujours de leur ramener
du business.
Je leur ramène du business.
Et du coup toi tu t'occupes pas que de Dubaï, tu t'occupes de plusieurs pays.
Alors je m'occupe de toute la zone Middle East.
D'accord.
Donc tous les pays du Golfe, et ensuite je m'occupe de développer la stratégie que je développe pour le Middle East, en Afrique du Sud, à Singapour, en Malaisie, à Hong Kong.
D'accord.
Et dans quelques petits pays d'Europe.
Pas mal.
Ouais.
Et alors, ce podcast qui s'appelle Vlan, à qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui?
Oh bah aux agences qui contactent les influenceurs et qui les payent sans même leur demander quoi que ce soit, et que du coup qui me contactent en me demandant c'est quoi ton budget avant même qu'on ait commencé à discuter quoi.
Ouais, c'est fou hein. Ouais, ça me paraît dingue que les gens font ça encore ça, mais bon c'est comme ça.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.